Sur Radio Campus 106,6, vous retrouvez comme chaque mercredi à 17h30 le magazine USTL Info. Et le troisième mercredi du mois, nous parlons de recherche. Avec aujourd'hui, et comme régulièrement maintenant, Issam Chaour, qui est donc responsable à l'université, vice-président chargé de la recherche. Bonjour Issam Chaour.
Bonjour.
Et son invité, qu'il va nous présenter en quelques mots, et après bien sûr nous lui donnerons la parole.
Donc on va parler effectivement de la physique au niveau de la recherche, et c'est Georges, donc directeur de laboratoire FLAM, mm-hmm. l'un des plus grands laboratoires de physique de l'université. Et je laisse à Georges de se présenter, donc de présenter également le laboratoire.
Donc bonjour Georges Lodarzac.
Bonjour, Georges Lodarzac, je suis directeur depuis maintenant 2 ans du laboratoire, donc dans l'acronyme FLAM, c'est-à-dire physique des lasers, atomes et molécules. Bon, c'est un laboratoire qui résulte de la fusion de deux laboratoires il y a une dizaine d'années et qui actuellement, au niveau de sa taille, compte 65 chercheurs et enseignants-chercheurs et une vingtaine de personnels techniques et administratifs. C'est un laboratoire qui, dans le domaine de la physique, s'étend de la physique atomique, comme son nom l'indique, à la physique moléculaire, avec des applications notamment à l'atmosphère et aussi quelques applications de nature astrophysique. D'autres points forts du laboratoire sont évidemment tout ce qui tourne autour du développement de lasers et plus récemment dans le domaine de la photonique. Nous fabriquons maintenant des nouvelles fibres optiques qui permettent d'envisager de nouveaux développements dans tout un tas de domaines, allant du plus fondamental au plus appliqué. Et enfin, pour terminer, une autre des spécialités du laboratoire, c'est aussi ce qu'on appelle la physique non linéaire, qui s'est surtout développée sur des phénomènes optiques et qui maintenant est appliquée par le laboratoire à des phénomènes tout à fait intéressant qui se situe à l'interface de la physique et du vivant.
Alors, c'est vrai que nos auditeurs ne sont pas forcément des chercheurs, hein, et loin de là. Donc, comment un laboratoire, et quel intérêt a-t-il d'ailleurs, à communiquer auprès du large public et notamment à faire connaître ses travaux et les vulgariser en quelque sorte?
Alors, je pense que pour un laboratoire qui utilise majoritairement actuellement des fonds publics, le contribuable est en droit d'attendre en retour quelques informations sur l'utilisation de ces fonds publics. Et le plus grand nombre est aussi amené à être informé. Donc nous avons des actions de communication pour différents publics. Nous impliquons beaucoup, notamment auprès de manifestations, auprès des jeunes, notamment dans les différents établissements, mais aussi dans les manifestations grand public qui ont lieu régulièrement dans le cadre de la Semaine de la Science. Et bon, cette émission est aussi une occasion de communiquer sur nos activités, ou tout au moins une partie de nos activités, sans entrer dans des détails trop techniques. Néanmoins, le laboratoire communique relativement facilement sur, je dirais, les applications de certaines de ces travaux. Néanmoins, nous restons aussi à la base un laboratoire de physique fondamentale, c'est-à-dire que nous étudions des phénomènes très fondamentaux dont les applications ne verront pas le jour avant peut-être quelques décennies, ou peut-être n'auront jamais d'application. Mais c'est aussi la curiosité qui mène le chercheur, est donc pas forcément la quête d'une application immédiate.
Alors, Georges Lodarzac, parmi les domaines, on va parler de la photonique. Alors, il y a beaucoup de sciences en IC, oui. Et c'est à la mode, les IC, les TIC, oui. Etc. Donc, la photonique, on entend bien photon quelque part aussi, ça a un rapport?
Oui, tout à fait. Donc, la photonique, c'est l'utilisation de la lumière comme messager de l'information. Et l'un des outils les plus couramment utilisés et les plus populaires auprès de nous en public, c'est la fibre optique, mm-hmm. Qui permet d'acheminer de l'information à très haut débit d'une façon beaucoup plus efficace que d'autres moyens de transmission. Et actuellement, en termes de débit et aussi en termes, disons, d'optimisation du parcours de l'information à partir du producteur de cette information vers l'usager, il y a de nombreux travaux qui visent donc à diminuer, par exemple, l'atténuation, c'est-à-dire la diminution du signal que vous voulez envoyer, ou augmenter aussi le débit ou d'autres types d'applications, notamment dans la transmission d'images, par exemple. Nous avons des projets développés avec des équipes médicales pour utiliser ces nouvelles fibres optiques pour améliorer les qualités de l'imagerie dans le domaine médical. Donc ça va de la transmission d'informations à la transmission d'images dans des domaines très variés.
Alors, quand on parle, par exemple, de l'Internet haut débit, ça a un rapport avec ça
ou... Oui, c'est un moyen d'augmenter, effectivement, les performances. Mm-hmm. Même si en France, disons, le plan fibre a eu quelques déboires dans le passé, mais c'est un moyen qui, à l'avenir, je pense, permettra des développements importants.
Et à l'échelon d'une université de sciences et technologies, par exemple, est-ce que les processus de diffusion de l'information à travers des canaux, des fibres, sont plus rapides que par Internet traditionnel?
Oui, certainement, oui. Mais bon, c'est... Donc la quantité d'information qui circule sur le campus n'est peut-être pas... ne nécessite peut-être pas forcément, disons, des fibres optiques, mais... Par contre, nos recherches, disons, vont surtout vers la fabrication de fibres nouvelles aux nouvelles propriétés, mmh. Qui peuvent intéresser à la fois les télécoms, mais qui peuvent aussi intéresser des physiciens très fondamentaux qui utilisent les propriétés de transmission de la lumière dans ces fibres d'une certaine façon pour améliorer des dispositifs. On peut imaginer, on travaille dessus, créer des nouvelles sources laser. Qu'on appelle fibré, c'est-à-dire qui utilise ces fibres optiques, donc des lasers de nouveau type. On cherche aussi à développer, par exemple, la transmission de lumière avec de très hautes puissances lumineuses à travers des fibres, sans détruire donc justement ces fibres. Et actuellement, les progrès ont été réalisés, par exemple, parce que dans les fibres actuellement, une grande partie de ces fibres sont creuses. À l'intérieur, il y a de minuscules petits trous de l'ordre d'un micron de diamètre, et donc ça permet, disons, de transmettre la lumière avec des propriétés un peu différentes que si la fibre était pleine, par exemple.
Voilà, donc on a une idée de ce que c'est une fibre en tant que tuyau, oui. Avec un contenu qui est propulsé. Est-ce que ce tuyau est dans une matière spéciale et laquelle?
La plupart des fibres que nous travaillons actuellement au laboratoire est fait à partir de silice, c'est-à-dire sont du verre. Mm-hmm. Dans d'autres laboratoires, on utilise des fibres à partir de matières plastiques. Mais dans notre cas, on développe surtout des fibres à partir de silice. Donc quand je vous dis, ces fibres ont des designs très variés en termes de structure interne. Donc il y a des fibres qui sont pleines, d'autres qui sont creuses, d'autres qui ont beaucoup de trous à l'intérieur, d'autres qui n'ont pas beaucoup de trous à l'intérieur. Dans certaines, on peut mettre des matériaux étrangers à la silice, donc on appelle des matériaux dopants, qui permettent aussi donc de modifier ces propriétés. Donc on a tout un panel. En général, le design est fait à partir de maintenant de la propriété que l'on veut, c'est-à-dire que soit pour des recherches fondamentales au laboratoire ou des applications, on voudrait une fibre qui transmette la lumière de telle façon. Et à partir de là, à l'aide d'algorithmes, notamment d'algorithmes génétiques, on peut arriver à trouver une solution technique qui permette de réaliser une fibre qui a les propriétés qu'on voudrait qu'elle ait.
Donc selon la matière à transporter, la fibre est adaptée?
C'est tout selon l'information. C'est, en fait, ce qui est transporté dans la fibre, c'est la lumière. Mmh. Et il se trouve que la matière, lorsqu'elle est traversée par la lumière, donc peut déformer... les signaux lumineux de différentes façons. Et donc, dans certains cas, ces déformations sont utiles, dans d'autres cas, elles sont nuisibles. Donc, suivant le type de propriété que l'on veut, la fibre est conçue suivant un design différent.
Non, la lumière, en fait, c'est une onde quand même. Oui. Il y a des ondes très différentes, des lumières d'ondes différentes. Est-ce que oui. Ça joue la fréquence de cette
Bien
lumière
sûr, oui. Donc, on ne transmet que des lumières pour lesquelles, effectivement, la fibre est transparente. Donc, dans le domaine des télécoms, il y a des canaux bien précis, tout comme les fréquences radio, par exemple, pour les radios libres, il y a des canaux bien précis. Mm-hmm. Dans le cas des applications laboratoires, le panel des longueurs d'onde est beaucoup plus important, puisque les applications, potentiellement, sont plus variées. Alors, mais typiquement, ça se situe dans l'infrarouge proche.
D'accord. Et donc, ces fibres, elles peuvent atteindre des longueurs importantes?
Oui, enfin bon, nous, pour des problèmes de recherche, on ne tire que quelques centaines de mètres, puisque bon, mm-hmm. on reste un laboratoire de recherche, nous ne sommes pas fabricants de fibres. Mm-hmm. Chez les fabricants, donc, ça peut atteindre effectivement oui, plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, ou des milliers de kilomètres, ça dépend de l'endroit où on va aller. Si vous voulez tirer des fibres dans des câbles transatlantiques, donc la longueur est de plusieurs milliers de kilomètres, forcément.
Qu'est-ce qu'il y a d'autres solutions à part les fibres pour transporter de la lumière?
Bah, actuellement, vous avez soit le domaine, disons, des hertziens, c'est-à-dire vous envoyez avec un émetteur une onde dans l'espace vers un satellite, par exemple, qui le renvoie vers notre point du globe, ou dans le domaine sous-marin, vous avez des câbles électriques, en quelque sorte, qui aussi transmettent des ondes électromagnétiques. Simplement, la lumière est, enfin, l'information est toujours codée sur une onde électromagnétique qui, dans la fibre, est une onde, disons, qu'on appelle lumineuse. Dans les câbles, c'est une onde électromagnétique d'une autre longueur d'onde qui est aussi de même nature physique. Donc, simplement, le support change suivant une caractéristique de la lumière que vous voulez transmettre, c'est-à-dire c'est la longueur d'onde.
Est-ce qu'il y a des besoins internationaux de normes communes ?
Oui. Oui, dans le domaine des télécoms surtout. Mm-hmm. Par exemple, nous avons actuellement en cours de signature une sorte de convention avec une entreprise internationale qui est le numéro 2 mondial de fabrication de fibres optiques, qui s'appelle Drac Acomtech. Cette entreprise a une unité qui est située dans la région Nord-Pas-de-Calais, près de Billy-Berclos. Mm-hmm. Et donc, elle fabrique essentiellement donc, des fibres qui ont une destination commerciale. Néanmoins, nous avons des intérêts communs, c'est-à-dire que nous pouvons développer pour elle des études tout à fait amont pour éventuellement des produits qui pourraient l'intéresser. Et d'un autre côté, elle bénéficie de tout un tas d'équipements qu'un laboratoire ne peut pas se payer, notamment pour contrôler nos équipements qui fabriquent ces fibres, qui ont besoin, disons, d'étalonnage très précis. Et grâce à notre collaboration, disons, nous avons accès à la fois du personnel ingénieur et personnel technique disons qui est bien formé à l'utilisation de ces outils industriels et nous avons accès aussi à des outils industriels qui permettent disons, d'optimiser le fonctionnement de notre centrale de fabrication de fibres qui reste quand même de taille disons académique mais qui n'a pas disons pour but de fabriquer des fibres par centaines de milliers de kilomètres pour des usages commerciaux.
Mmh. Est-ce qu'en France on est bien placé en termes de production de fibres?
Ben disons que en ce qui concerne le milieu académique, je pense que la centrale que l'on a ici et qui a été, disons, voulue par le plan de renforcement de la recherche qui a suivi, disons, le fait que la région n'ait pas obtenu la source de rayonnement soleil. Donc la région a mis beaucoup d'argent pour développer certains projets. Donc cette centrale en est l'un des fruits. Et je dirais que, disons que sur le plan français, nous avons ici, en termes de centrale de technologie de fibre, je dirais ce qui se fait de mieux, puisque nous avons l'ensemble des technologies présentes sur le campus. Mm-hmm. Alors qu'ailleurs en France, disons, les autres centrales ne présentent qu'une partie de ce que nous avons. Donc les autres centrales sont essentiellement à Limoges et Nice, avec lesquelles nous collaborons, bien sûr. Mais disons que nous avons la centrale la plus récente, et donc, compte tenu des investissements qui ont été faits, cette centrale aussi comporte tout un tas de techniques de fabrication, justement le dopage de ces fibres par différentes méthodes pour avoir accès à tout un tas de matériaux différents, et donc des propriétés beaucoup plus variées que si nous n'avions qu'une seule technologie de fabrication.
Est-ce que les fibres que vous fabriquez ou que vous recherchez sont aussi un centre d'intérêt pour d'autres endroits où on cherche, où on travaille avec la matière de fibres, par exemple comme l'Ensight, l'école d'industrie textile?
Oui, enfin, nous avons, y a des possibilités, notamment de fabriquer donc des textiles intelligents à base de fibres, par exemple. Nous avons aussi dans ce domaine potentiellement des applications justement d'utiliser des fibres interconnectées avec des connecteurs d'un nouveau type qui permettrait par exemple de développer des nouveaux textiles intelligents. Donc une demande de brevet a été faite par une équipe du laboratoire, mais malheureusement il y avait déjà des technologies un peu trop voisines qui ne permettent pas de déposer ce nouveau brevet, mais l'analyse qui a été faite par les services qui ont examiné ce projet ont souligné le caractère tout à fait prometteur au niveau des applications industrielles, notamment dans le textile.
Georges Darzac, un autre secteur, c'est la physique moléculaire. Alors, nous, par exemple, au lycée, on apprend ce que c'est en gros qu'une molécule. Est-ce que ce qu'on a appris au lycée, c'est encore valable maintenant? Et est-ce que ce n'est pas une façon assez réduite de présenter ce qu'est un atome ou une molécule?
Non, je crois que les concepts quand on enseigne au lycée sont des concepts qui restent valables au niveau, effectivement, où on les présente au lycée. Il est évident que, bon, si on augmente le niveau d'exigence dans la description. Effectivement, les descriptions sont de plus en plus complexes. Et grâce aux outils, notamment optiques, lasers et autres, on peut maintenant sonder la matière diluée, c'est-à-dire les atomes ou les molécules, avec infiniment plus de précision qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Bon, les fondements ne sont pas remis en cause, simplement la qualité des mesures. Et par exemple, certaines molécules ou certains atomes sont étudiés pour leur qualité métrologique, par exemple pour faire un étalon de temps, par exemple, pour définir ce qu'on appelle la seconde, qui est définie actuellement à partir des propriétés d'un atome, qui est un atome de césium. Et actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour, par exemple, changer le standard et trouver un nouvel atome qui aurait des propriétés encore plus stables et qui permettrait de définir une seconde encore plus précise que la seconde actuelle, par exemple. Mm-hmm. Alors cela n'est pas fait au laboratoire. Disons, au laboratoire, nous utilisons des atomes que nous appelons refroidis, c'est-à-dire avec des lasers, nous diminuons leur vitesse. Et ça résume à diminuer leur agitation, c'est-à-dire à diminuer leur température. Donc les températures sont de l'ordre de... en dessous du millionième de degré absolu. Et à ce moment-là, ces atomes peuvent avoir des propriétés, intéressantes. On peut les piéger dans certaines conditions avec d'autres lasers, et on peut ensuite étudier leurs propriétés, qui sont des propriétés fondamentales de physique, à partir desquelles on peut éventuellement avoir des idées à très très long terme. Par exemple, il y a des gens qui pensent que, à l'échéance de 50 ou 100 ans, les ordinateurs vont fonctionner sur des principes qui seront des principes qu'on appelle information quantique. Et quand il y a quantique, ça veut dire que la base, ce sont des atomes ou des molécules. Bon, pour l'instant, ce sont des études très prospectives et il n'y a pas de développement à attendre avant la fin du siècle, peut-être.
Est-ce que, plus petit que l'atome, on commence bien à maîtriser, à connaître l'univers qui est en dessous de l'atome ?
Oui. Oui, mais bon, ce sont, si vous voulez aller au-dessous de l'atome, il faut donc casser ces atomes et donc avoir des énergies, donc des sources d'énergie importantes pour donc casser un peu ces objets. Nous nous contentons, disons, d'étudier les atomes sans les casser, ou on peut légèrement les modifier en leur enlevant, par exemple, un ou plusieurs électrons pour ce qu'on appelle les ions, donc des objets chargés qui peuvent être intéressants. Pour les molécules, par exemple, qui sont des assemblages d'atomes, une grande partie de l'activité de nos laboratoires se situe notamment dans l'étude, disons, de l'interaction entre la lumière, justement, et ces molécules, de façon à comprendre, le message, par exemple, qui nous vient de certaines zones du cosmos, c'est-à-dire toute la région, par exemple, qui se situe autour des étoiles, qu'on appelle le milieu interstellaire, donc inter-entre stellaires, les étoiles. C'est un milieu qui est, lorsque vous l'observez à l'œil nu, totalement sombre, noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière visible qui est émise par ces zones. Et en fait, on a longtemps pensé qu'elles étaient vides. Et en fait, depuis une quarantaine d'années, on s'est aperçu en fait qu'il y avait dans ces zones que l'on pensait vides, des poussières, mais surtout une très très grande quantité de molécules. Et ces molécules nous émettent des rayonnements, un peu comme les radios nous émettent des émissions. Et justement, il se trouve que ces rayonnements sont émis dans le domaine des ondes qu'on appelle les ondes radio. Et donc avec des radiotélescopes, donc des grandes antennes paraboliques de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, qui sont un peu plus grandes que les antennes paraboliques qui vous servent à capter les émissions de télévision satellitaire, eh bien on arrive à capter le message de ces molécules. Et avec ce message, on peut en déduire, disons, les propriétés physico-chimiques de ces endroits très éloignés. Et il se trouve que ces zones, par exemple, sont des zones très intéressantes puisqu'elles sont considérées, pour certaines d'entre elles, comme étant des berceaux d'étoiles. C'est-à-dire, sont des zones où les étoiles se forment puisque les étoiles ont aussi une vie. Elles vivent, elles évoluent au cours de leur vie. Et en fait, une étoile est d'abord conçue comme étant simplement un effondrement d'un nuage de gaz sur lui-même qui, en s'effondrant, disons, voit sa densité augmenter, sa température augmenter. Et à un moment donné, donc, à l'intérieur de ce gaz, il peut y avoir des réactions qui permettent... disons une fusion entre noyaux et ensuite arriver à une formation d'étoiles. Alors nous étudions les stades un peu de la genèse des étoiles et grâce à des collaborations avec des groupes d'astrophysiciens. Donc nous fournissons une partie, je dirais, physique de laboratoire et qui permet de décrypter, je dirais, le message astrophysique.
Mmh. Est-ce qu'à l'échelle de l'univers, on peut imaginer que les planètes, les étoiles, etc., sont autant d'atomes de l'univers qui composent un univers dont on ne maîtrise pas la taille ni la forme ni...
Oui, enfin, la question, enfin, l'univers, la taille de l'univers, la forme de l'univers, c'est une question très vaste. Disons simplement que l'univers a été formé effectivement à partir d'atomes primordiaux qui se sont rassemblés en nuages, qui se sont effondrés, qui ont formé des étoiles. Ces étoiles, certaines d'entre elles ont explosé et Nous, par exemple, sur Terre, nous sommes de la matière recyclée qui vient d'une explosion antérieure, puisque sur Terre, nous avons des éléments très lourds, plus lourds que le fer, qui indiquent que le matériau dont est fait la Terre ou le système solaire provient, disons, du recyclage de matériaux qui a été formé lors d'une explosion précédente, puisque les atomes plus lourds que le fer ne sont formés que dans ces événements violents que sont vraiment des explosions de certaines étoiles qu'on appelle les supernovas. Donc en fait, l'univers est formé de matière qui se recycle perpétuellement. C'est-à-dire, une fois que les étoiles sont formées, elles ne sont pas stables non plus, donc à l'échelle tout au moins de l'univers. Donc elles éjectent de la matière, donc elles recyclent.
Rien ne disparaît, tout se transforme.
Voilà, tout se transforme. Et il y a, disons, des zones très turbulentes, où il y a des vents qui transportent des quantités de matière importantes. Et toute cette matière donc, est constamment recyclée, donc de cycles, disons, de compression et d'explosion.
Est-ce qu'à l'échelle de notre temps humain, cela donne des risques particuliers ou...
Non. Non, les phénomènes astrophysiques, à l'exception de phénomènes tels que des explosions, se font sur des échelles... L'évolution se fait sur des échelles qu'on appelle astronomiques, c'est-à-dire très grandes devant l'échelle d'une vie humaine. Donc c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on fait de l'astrophysique, finalement, d'essayer de trouver par l'observation des objets qui sont à des âges différents, qui permettent ensuite aux scientifiques de valider un scénario d'évolution. C'est-à-dire que durant la vie d'un astrophysicien, on ne peut pas observer l'évolution d'une étoile tout au long de son cycle. Donc il faut trouver par l'observation des étoiles ou des proto-étoiles, c'est-à-dire des bébés étoiles, qui ont des âges différents, et en observant des objets d'âges différents, après on peut reconstituer finalement le cycle de la vie d'une étoile complète.
Alors, professeur Lodarzac, la physique, on sait ce que c'est, la chimie, on sait ce que c'est, la biologie, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on peut imaginer ces trois sciences fonctionnant séparément ?
Séparément, oui, peut-être. Bon, en tant que physicien, et on a toujours tendance à ramener tout à sa discipline, on peut considérer que la physique, si on considère que l'outil mathématique est maîtrisé, puisque le langage de la physique, ce sont les mathématiques, la physique est peut-être considérée comme une science autonome jusqu'à un certain point. Néanmoins, bon, la chimie et la physique sont intimement liées, puisque bon, les molécules sont souvent, disons, des objets d'étude du chimiste et ou du physico-chimiste. Donc quand j'étais jeune, la limite se situait à 3 atomes, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 atomes, c'était une molécule pour le physicien, et au-delà de 3 atomes, la molécule était faite pour le chimiste. Enfin, c'est un peu une boutade, mais c'était la situation qui prévalait quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, mes activités de recherche dans le domaine.
Alors, j'étais étonné quand je suis passé de la mathématique à la physique, que... En physique, il y avait des marges d'erreur, et en mathématiques, il n'y en avait pas. Alors, c'est quoi ce... Il y a quand même une différence de concept. Hein.
Mais disons que la physique est basée essentiellement sur donc l'observation, qui se fait via des instruments, soit des instruments naturels comme les yeux, ou des instruments artificiels créés par l'homme. Et donc, tous ces instruments ont des limites, donc en termes de résolution, en termes de sensibilité. Et à partir de là, donc, nous, ce que nous cherchons, c'est à modéliser disons, le réel, à partir de nos observations, à partir de l'outil mathématique. Donc forcément, nous sommes disons, tenus par effectivement les imperfections de nos instruments de mesure. La mathématique, pour moi, c'est aussi une science de la nature, mais simplement, elle n'est pas soumise, disons, à l'observation. C'est une construction intellectuelle qui ne nécessite pas d'information, d'observation. Donc c'est une... les incertitudes sont basées sur la statistique, qui est aussi elle-même une discipline mathématique.
Alors, selon vous, entre les mathématiques, la physique, chimie, la biologie, quelles sont les sciences qui sont les plus positives pour l'homme et son devenir ?
Non, actuellement, pour le physicien, ce qui est intéressant, je ne sais pas si... on ne raisonne pas forcément en termes de devenir pour l'homme, mais ce qui est toujours intéressant pour le physicien, c'est ce qui se passe aux interfaces. Moi, quand j'ai commencé, dans la recherche, je me suis intéressé à l'interface entre la physique, la chimie, l'astrophysique, parce que bon, c'était historiquement, j'étais dans un environnement qui favorisait cela. Bon, actuellement, les grands challenges, par exemple, sont encore dans ce domaine, mais des nouveaux challenges sont apparus, par exemple, dans le domaine de l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. Parce qu'il y a un tas de choses qui, même au niveau des cellules individuelles, ne sont pas compris d'un point de vue physico-chimique. Et donc, par exemple, les physiciens de notre laboratoire, qui sont soit des théoriciens, soit des expérimentateurs, actuellement appliquent les outils d'analyse qu'ils utilisaient donc il y a 10-15 ans sur des systèmes purement physiques. Et en fait, ils ont développé tout un tas d'outils qu'ils utilisent maintenant pour interpréter les signaux, par exemple, de cellules. Donc, par exemple, nous avons une collaboration avec des biologistes de Banyuls qui ont créé une algue unicellulaire, donc un objet assez simple d'un point de vue biologique. Et nous étudions, par exemple, essayons de comprendre la réaction de ces algues à l'alternance du jour et de la nuit. Donc, évidemment, ça nécessite des manips qui sont assez longues, puisque le cycle du jour et de la nuit est un cycle de 24 heures. Mais il y a tout un tas d'observations qui ont été faites par ces groupes et auxquelles, disons, des équipes de notre laboratoire permettent d'apporter un éclairage en termes de modélisation. Et disons que ce domaine, disons, l'interface physique-chimie-biologie, est, je dirais, un domaine intellectuellement très intéressant. Alors, en termes d'application positive, le physicien en laboratoire, en général, ne se pose pas ou peu la question. C'est-à-dire, on s'aperçoit que parmi les grandes inventions des dernières années, les préoccupations, notamment si vous prenez celle du dernier prix Nobel de physique en 2007, ces travaux étaient travaux très fondamentaux sur des matériaux et sur le magnétisme de ces matériaux, enfin un certain type de magnétisme. Il se trouve que ces travaux ont abouti à des conceptions de nouvelles têtes de lecture pour tous les disques durs qui sont donc dans tous les lecteurs de CD, de DVD dans le disque dur. Donc il y a des applications qui sont apparues par la suite, mais qui n'étaient pas du tout des applications qui étaient au cœur des préoccupations du groupe de physiciens qui les a, disons, inventé. La même chose pour le laser, par exemple. Le laser est aussi un bel exemple.
Voilà, très positif pour l'homme. On aurait bien sûr des heures à passer sur tous ces sujets passionnants. Donc, je voudrais peut-être, pour conclure, donner la parole à Sam pour quelques mots. On va devoir prendre l'antenne.
L'idée de cette émission, en fait, c'est d'informer sur les recherches qu'on a effectivement au niveau de l'université et leurs applications. Donc aujourd'hui, c'était autour de la physique. Et la prochaine fois, ce sera autour des mathématiques. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler des mathématiques, des recherches de mathématiques à Lille.
Merci beaucoup, donc Georges Razac et donc Issam Chaour. Bonne journée.
Merci bien.